Hola, hola, chers auditeurs de Rencontres Lusophones. Soyez les bienvenus dans cette émission produite par Radio Résonance et émise sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance Bourges et sur celle de Radio Avalon 105.2 le samedi matin. Je salue donc chaleureusement tous nos auditeurs du Cher, de Lyon, du Portugal et de tous les pays qui nous écoutent désormais. Avec vous ce soir, nous aurons le grand Jeff à la technique et c'est moi, Hélène, qui présenterai l'émission de ce soir. J'espère qu'elle vous plaira. Manu, quant à lui, sera ici à ma place, exactement à ma place, samedi prochain. Bonsoir, Jeff.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Tout de bien?
Tout de bien.
Tu comprends tout maintenant?
Oh, non.
Bon, dis donc, il paraît que tu as cartonné la semaine dernière.
Oh, n'exagérons pas, j'ai fait un petit score.
Un petit score. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire cartonner.
Oui, en plus, oui.
Oui, en fait, notre émission a été mise sur Internet. Mmh. Et là, on s'aperçoit avec beaucoup de surprises, notre grande surprise, qu'on est écouté au Japon, en Thaïlande, en Allemagne, un peu partout, quoi. Et donc, tu as fait un score énorme.
Par rapport à la moyenne ordinaire, oui.
Mmh. Bon, très bien. Tu es fier.
Ça va.
Mmh. Très bien. Alors, ce soir, j'ai choisi de vous parler de la condition féminine au Portugal. La journée internationale des droits de la femme n'est pas si loin et j'en ai profité pour aller voir comment les femmes portugaises opprimées durant les 48 années de dictature, ont surmonté cette oppression qui les réduisait au simple rôle de mère et d'épouse. Mais avant cela, je vous propose mon billet du jour qui ce soir aborde un sujet polémique relevé par une chercheuse capverdienne qui a trouvé que le livre « Les Mayas » de Essad Queiroz contenait certains passages racistes. On y va ?
Bora !
Résonance 96.9.
Sur Rencontres Lusophones, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Dans le billet d'humeur de ce soir, je voudrais partager avec vous une réflexion à propos de l'œuvre littéraire d'Essad Queiroz, Les Mayas. Elle concerne un article sur lequel je suis tombée cette semaine et qui relate les propos d'une chercheuse capverdienne décrivant l'œuvre d'Essad Queiroz comme étant une œuvre comportant certains passages racistes. Et là, j'aurais bien envie de dire que le livre d'Essad Queiroz ne fait pas figure d'exception, puisqu'on ne compte plus les films, les œuvres artistiques ou les livres taxés de racisme. Et il faut bien reconnaître que depuis le meurtre de l'afro-américain George Floyd, on assiste à une véritable vague de manifestations pour dénoncer la discrimination raciale qui se répand à travers le monde. Et aujourd'hui, ce sont carrément certaines œuvres artistiques qui sont mises en cause pour leur approche de la question raciale. Le film américain, Autant n'importe le vent, en a d'ailleurs fait les frais, ainsi que certains livres ou films de Disney, comme Le Livre de la Jungle, par exemple. Mais les films ne sont pas les seuls à brûler sous les feux de la critique. On ne compte plus les statues déboulonnées de leur socle, les affiches arrachées, les livres bannis ou auxquels on a rajouté une note explicative. C'est le cas par exemple de la BD Tintin au Congo, qui fait polémique depuis bien des années parce qu'elle a toujours été critiquée pour sa vision raciale et colonialiste de l'Afrique. Ce qui d'ailleurs, par le passé, avait obligé son auteur, Hergé, à réécrire certains passages de l'album en fonction des différentes régions du globe où il était édité. Et bien dans le roman de Essad Queiroz, c'est précisément la suprématie de la race blanche qui est mise en cause. Le livre raconte une passion amoureuse scandaleuse dans la société bourgeoise des années 1870 dans la capitale portugaise. Voilà en gros pour l'histoire. Et c'est donc, comme je vous le disais, une chercheuse capverdienne qui aurait identifié dans Les Mayas plusieurs passages racistes qui, selon elle, mériteraient non pas la censure du livre, mais la simple inclusion d'un commentaire pédagogique pour expliquer le contexte du roman. Des passages xénophobes qui, selon elle, ne portent évidemment pas atteinte à l'œuvre littéraire, mais qui pourraient au contraire créer des opportunités d'enseignement et d'instruction culturellement responsables. Ce sont ses mots. Elle ajoute même qu'il serait important de séparer le roman de son auteur, car c'est le contenu qui est en cause et non l'auteur lui-même. Elle raconte, je la cite, que l'infériorité des Africains et le mépris pour les Noirs ou tout aspect lié à la race noire est présent dans le langage du narrateur et renforcé par les actions, les pensées des personnages et l'idéalisation de la blancheur chez les enfants, les hommes et surtout chez les femmes. Ce qui, en résumé, voudrait dire que certains passages du livre attesteraient de la supériorité de la race blanche sur la race noire. L'un des passages que la chercheuse a d'ailleurs utilisé pour illustrer sa déclaration se trouve au chapitre 16 du roman. La voici. Elle, Edouarde, grande, blonde, splendide, habillée par la ferrière, fleuron d'une civilisation supérieure, se distingue dans cette foule de petites femmes noires. Et toujours, selon la chercheuse, le personnage du roman dans lequel le racisme est le plus évident serait Juan Daeg, l'un des personnages principaux, ami de Carl Damay, l'un des deux héros du livre. Pour illustrer ses propos, elle cite un extrait dans lequel Juan Daeg met en évidence ses idéologies de suprématie. Il se trouve au chapitre 12, le voici. Egg a déclaré très résolument que c'était de l'esclavage. Les inconforts de la vie, selon lui, avaient commencé avec la libération des Noirs. Et encore une fois, la doctorante considère que l'œuvre des Mayas serait un outil idéal pour explorer les valeurs et les comportements liés à la race noire qui existaient à l'époque et qui continuent de se manifester dans divers aspects de la vie d'aujourd'hui. Notamment dans le constat que nos sociétés ont été fondées sur des inégalités qui persistent encore de nos jours. Son message est simple. Certains artistes et auteurs ont quelquefois, à travers leurs œuvres, véhiculé des clichés racistes. Aujourd'hui, notre rôle serait donc de les prévenir et d'éduquer. Il est en effet vain et inutile de démonter des statues ou de bannir des œuvres littéraires sous prétexte qu'elles ont contribué ou profité de notre passé colonial. Toutes ces œuvres datant d'un autre temps, il est normal qu'elles véhiculent des messages qui ne reflètent plus notre époque. Pour terminer mon propos, j'aimerais vous citer une phrase relevée dans une tribune écrite par un sociologue américain et qui dit ceci. Nous lisons souvent l'histoire à l'envers en jugeant les gens du passé en fonction de nos valeurs actuelles. À méditer.
Essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem, tudo o que se perde ganha asas, anjos que caminham. Que nos guiam as palavras. Vai além, segue a vida, segue o tempo, como folha na corrente. Vai, meu bem, segue. Essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansadas.
Culturelle.
De rencontre lusophone.
Nous venons d'écouter Viage de Thiago de Bettencourt. Viage et voulant dire voyage. C'était le message subliminal que j'avais envie de vous faire passer ce soir. Et pour la chronique d'aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser passer cette semaine sans évoquer avec vous la journée de la femme, même si je vous l'accorde, dans le meilleur des mondes, cette journée de commémoration ne devrait même plus exister. Mais nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, loin de là. Et on sait bien qu'une journée pour parler des femmes, c'est complètement aberrant. Car c'est toute l'année qu'on est contraint de s'offusquer, d'agir ou même de gueuler, puisque les femmes qui sont traitées comme des êtres inférieurs, qui sont humiliées, déconsidérées, frappées ou harcelées, c'est toute l'année qu'elles vivent ce calvaire. Et l'actualité ne me laisse malheureusement pas mentir, et en disant cela, je pense notamment à la parole des femmes qui depuis quelque temps est en train de se libérer sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui n'a certes pas que du bon, mais qui a au moins l'avantage d'exister et de permettre à certaines femmes de s'exprimer. Dans la chronique de ce soir, je rendrai donc un hommage aux femmes. Et comme nous sommes dans une émission lusophone, c'est sur les femmes portugaises que je me pencherai ce soir. Mais avant d'aborder ce sujet, je voulais juste vous dire deux, trois mots sur l'état sanitaire au Portugal en ce qui concerne le Covid, ou la Covid. Et c'est une plutôt bonne nouvelle, puisqu'il y a deux semaines, ici même, je vous disais que le Portugal était le pire élève de l'Europe et l'un des pires au monde en termes de décès et de contamination. Eh bien, il semblerait que le confinement ait porté ses fruits et que la tendance vers une véritable accalmie se confirme depuis déjà quelques jours. Mais le Portugal continue à être prudent, car il vient de reprolonger l'état d'urgence et le confinement total jusqu'au 31 mars. Le Premier ministre António Costa a même annoncé que malgré la récente amélioration de la situation sanitaire, le mois de mars connaîtra le même confinement que celui actuellement en vigueur. Un gouvernement qui reste évidemment très prudent, car j'imagine qu'il souhaite pérenniser l'amélioration et qu'il n'a surtout plus envie de revoir les gigantesques files d'ambulances devant les hôpitaux. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que le plan de déconfinement aurait lieu par étapes et que les écoles primaires seraient les premières à être déconfinées. Et puis il semblerait que le pays commence déjà à se projeter dans l'après-Covid, puisqu'il évoque le retour du tourisme, mais pas comme avant évidemment, parce que bien que le tourisme soit essentiel à son économie, je pense que le pays a envie de repenser un modèle touristique un peu plus responsable et plus durable, ce qui en soi n'est pas un mal. Et oui, comme partout, tout est jugé, tout est sur une question d'équilibre. Le tout étant de garder espoir pour revenir le plus rapidement possible à une vie normale. Car on a tous envie de restaurant, de traîner au café, d'aller au cinéma, d'assister à des concerts. Et tiens, en parlant de concerts, j'ai lu cette semaine qu'une grande salle de spectacle à Amsterdam a récemment fait une expérience en accueillant 13 000 personnes pendant près de 4 heures. L'objectif ayant été d'évaluer les risques de contamination pendant un concert. En fait, on aurait partagé les spectateurs en 4 groupes, en disposant chacun de consignes particulières. Dans un groupe, on aurait demandé par exemple aux gens de garder leurs masques et les distanciations sociales. Dans un autre groupe, on aurait demandé tout le contraire, c'est-à-dire ni masque ni distanciation. Et dans un autre, on aurait demandé par exemple de crier et de chanter le plus possible pour évaluer la distance à laquelle il y aurait pu y avoir des projections de salive. Évidemment, les gens auraient tous subi un test PCR avant le concert et un autre à faire dans 2 semaines. Il va maintenant falloir attendre le résultat, c'est donc une affaire à suivre. Enfin voilà, ça ne se passe ni en France ni au Portugal, mais en Hollande. Et comme nous sommes tous dans la même galère, toute expérience est la moindre idée pour s'en sortir et bonne à prendre. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la femme, je vous propose justement une voix féminine et féministe. C'est celle de Capicu, une rappeuse portugaise très engagée qui véhicule souvent à travers ses chansons des vrais messages féministes, fortement influencés par des poètes portugais et en particulier par la poésie d'une autre féministe, Sofia de Melbrenner. La chanson que je vous propose est une collaboration, celle de plusieurs femmes, Capicu, qui interprète la chanson Catalina Salinas qui donne sa voix au refrain et Sofia de Melbrenner qui a inspiré les paroles. A minha ilha.
A minha ilha tem uma cauda de sereia, dorso de baleia mansa, nácar e areia branca. A ilha tem uma água azul piscina que se ostenta como anel de noiva ciumenta. A menina coquete sabe que é bonita e capricha na mise-en-scène. Seu silêncio é solene, seu colo que me serene, que me leve, que me lave, suave, assim leve. Saudade é sincera, de esfera turquesa, como os olhos do Chico. Eu tenho a certeza, se me pedires eu fico. Beijo um figo, leio um livro ao pé da espuma e o tomilho do caminho vem no vento até à duna. Conhecer-te os humores, passar contigo o inverno. Quero saber-te de cor e se esse feitiço é etéreo. Espero, Mediterrânea, que esse amor nos seja mútuo e que sejas minha até ao último minuto. Como de Sofia às gregas és a minha devoção. Foi dessa areia rosa que enchi o meu coração. Gil na voz dele já diz que para ti só de barco. Amante instantânea, teu contorno é o meu quarto. Que não vivi junto do mar.
Le mythe de la princesse et du prince charmant alimente depuis très longtemps les relations hommes-femmes. Dans les contes de fées, la princesse est plutôt passive et doit attendre d'être sauvée par le beau prince qui la sauve en affrontant des dangers. Mais les temps ont changé et on remarque que dans les nouveaux dessins animés, les princesses se sauvent de plus en plus toutes seules. ce qui voudrait dire qu'une nouvelle génération de femmes princesses est née. Des douces et naïves Blanche-Neige et Cendrillon, on est passé à des Tiana, Ray Ponce, Mérida ou Mulan, des princesses insoumises et rebelles qui prennent leur destin en main. Et comme souvent la fiction s'inspire de la réalité, eh bien on a l'impression que ces princesses qui s'affirment de plus en plus ressemblent à la femme d'aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tout d'un coup a-t-on éprouvé le besoin de commémorer la journée de la femme ? Eh bien tout cela remonte aux années 70, un moment où les femmes cherchaient à s'émanciper et à faire valoir leurs droits. Les luttes féministes ont alors commencé à prendre de plus en plus d'importance, et ce, dans de nombreux pays. Parce que pour les femmes, de nombreux droits étaient à conquérir. Le droit de vote, l'égalité des salaires, l'accès à l'éducation, le droit à l'avortement, à la contraception, sans oublier la lutte contre les violences sexuelles. Devant ce changement de société en cours, l'ONU décide alors en 77 que le 8 mars sera désormais la Journée internationale des droits des femmes. Et malheureusement, le constat est vite fait. Nous sommes en 2021, les femmes luttent pour leurs droits depuis 40 ans, 44 ans, et très sincèrement, on a l'impression d'avoir avancé à pas de souris. Bon, c'est vrai qu'en France, en tant que femme et comparée à d'autres pays, on n'a pas trop à se plaindre, puisqu'on a accès à l'éducation, on a le droit de voter, voilà quoi. Mais en termes d'égalité des salaires, il faut bien avouer qu'on est encore bien loin du compte. Et je ne parle même pas des violences ou des harcèlements sexistes. Je ne vous apprendrai rien, évidemment, si je vous dis qu'en Europe, les femmes ne sont pas toutes loties à la même enseigne. Les Polonaises, par exemple, ont quelques inquiétudes à avoir désormais avec le recul du droit à l'avortement annoncé en octobre dernier. Mais les Argentines et les Portugaises aussi, d'ailleurs. Ce droit, acquis il y a quelques années par des femmes militantes, n'a cessé de reculer dans de nombreux pays. C'est comme ça. Depuis quelques années, on constate que les droits des femmes ne cessent de régresser, et tout cela est donc de très mauvais augure pour la condition féminine. Et pourtant, nombreux sont les pays qui ont inscrit la loi égalité hommes-femmes dans leur constitution. Mais force est de constater que des textes à la réalité, il y a un sacré gouffre. Alors oui, la société fait de très bonnes illusions, on voit que les femmes travaillent, qu'elles réussissent à faire des carrières et que globalement pour elles ça va. Mais ne nous y trompons pas, les mentalités sont dures à faire évoluer et la société n'est pas prête d'accorder l'égalité aux femmes. Quels que soient les domaines vers lesquels on regarde, les différences de traitement persistent. Vie personnelle, éducation, vie citoyenne et j'en passe. Certaines femmes cumulent même les discriminations par leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou la présence d'un handicap. Et au Portugal, qu'en est-il alors ? Quelle est la place de la femme dans la société ? Peut-on parler d'une égalité homme-femme ? Eh bien, nous verrons tout ça dans un instant après une deuxième pause musicale. Et ce soir, comme l'honneur est aux femmes, nous allons vous faire découvrir de belles voix féminines portugaises. Je ne sais pas si vous connaissez celle qui va suivre. Il s'agit de Bárbara Tinoco, une toute jeune artiste que le Portugal a découvert en 2018 lors de sa participation à la 6e saison portugaise de The Voice. Je vous laisse la découvrir dans une chanson qu'elle a composée elle-même, Antes de ela dizer que sim.
Sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu com quem a noite passou. Jura ela seu Romeu, ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem mau ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis, engates mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ele agora diz que ama, dorme junto só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme junto só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver despir. E as velhinhas se viu dois enamorados com cara de parvos antes dela dizer que sim. Antes dela dizer que sim. Mas ele ainda se lembra de descer aquelas escadas, ganhar coragem, perguntar e como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o amar, perguntou e tu como raio te chamas. Ele agora diz que ama, dorme junto, chove a dormir, gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme junto, chove a dormir, gosta dele.
Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que ce soir Rencontre Lusophone rend hommage aux femmes. Alors juste avant la pause, je vous disais que le chemin à parcourir pour une égalité homme-femme est encore très long et qu'il y a encore beaucoup à faire. Au Portugal, par exemple, la vie de la femme n'a pas toujours été facile. Mais remontons un peu dans l'histoire du féminisme pour y voir un peu plus clair. En fait, là-bas, au Portugal, les femmes ont vraiment commencé à lutter et à revendiquer leurs droits vers la toute fin du XIXe siècle. Et on peut dire qu'au Portugal, la première pierre du féminisme remonte au 17 juin 1897 avec la création de la Fédération Socialista do Sexo Feminino, que je n'ai même pas besoin de traduire tellement c'est évident. Quelques années plus tard, c'est Adelaide Cabet qui, avec l'aide d'autres activistes féministes, fonde en 1908 la Ligue républicaine des femmes portugaises. Et le premier congrès du mouvement féministe portugais voit finalement le jour en 1924 avec la présence de femmes importantes dans la lutte pour la condition féminine au Portugal, telles que Adelaide Cabet, Maria Veleda ou encore Helena Guimarães. Plus proche de nous, en publiant en 1971 un des textes les plus novateurs du XXe siècle, ce sont Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreiro et Maria Velho da Costa qui resteront connues dans l'histoire comme étant as três Marias do século XX. Et ce sont en réalité ces trois femmes qui portaient le même prénom, Maria, qui ont vraiment marqué le mouvement féministe au Portugal. Ces trois femmes étaient écrivaines et se sont consacrées à la cause féminine en tant que membres du mouvement féministe portugais. Et c'est entre 71 et 72 que ces trois auteurs ont lancé l'ouvrage « Novas Cartas Portuguesas » qui révélait au monde l'existence d'une discrimination à l'égard des femmes au Portugal. À travers leurs livres, elles dénonçaient la forte répression liée d'une part à la Ligue ou à la ligne dictatoriale de l'ancien régime de Salazar et d'autre part au pouvoir de l'Église catholique qui exerçait des pressions sur le comportement et la posture de la femme en tant que pilier essentiel de la famille et la limitant ainsi à ses obligations de mariage et de maternité. Belle perspective, je trouve. Allez, on se refait une petite pause musicale avant de continuer et de vous parler de la condition de la femme portugaise pendant la dictature de Salazar. Cette fois-ci, je vous propose deux belles voix du fado, Cucuruzeta et Catarina Águas, qui nous chantent en duo « Tristes Pássaros ».
Um pensamento as canções do fim do dia. Barco preso nos rochedos, mar de vidro quebra em mim. Fecho os olhos para os meus medos quando o fado canta o fim. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. O naufrágio, um pensamento de ter sorte e alegria. Fronteiras dos lamentos, nas canções do fim do dia. Barco preso nos rochedos, mar de vidro quebra em mim. Fecho os olhos para os meus medos quando o fado canta o fim. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz. Asas lentas pelo ar, ter nas costas essa cruz, não ter chuva para chorar o escuro dessa luz.
Pendant l'État nouveau, période pendant laquelle a gouverné le dictateur Antonio Salazar, la femme était essentiellement réduite à son rôle de mère et d'épouse. Et les nouvelles lettres portugaises ont été comme une sorte de credo rédigé par ces trois femmes écrivaines, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno et Maria Velho da Costa, qui à travers leurs livres ont révélé et dénoncé les injustices commises pendant la guerre coloniale et qui concernaient non seulement les femmes mais également les réfugiés et les exilés. Cet ouvrage a d'ailleurs valu à ces trois auteurs une procédure judiciaire mise en place par le régime de Salazar, qui trouvait que le supposé contenu érotique de l'œuvre aurait heurté les oreilles chastes du dictateur. Un long procès a donc été mené par ces trois militantes féministes. Mais heureusement, la révolution des œillets lui a coupé l'herbe sous le pied et la procédure judiciaire n'a jamais été menée à son terme. Et toujours dans la continuité du mouvement féministe amorcé par ces trois grandes femmes, la toute première manifestation féministe au Portugal a eu lieu au parc Édouard VII à Lisbonne, et c'était juste après la révolution de 1974. Nous étions donc en 1975, et une manif féministe a réellement marqué l'histoire. Elle était menée par le MLM, le mouvement de libération des femmes portugaises. À l'époque, des journaux assoiffés par l'événement avaient annoncé que des femmes se rendraient au parc Édouard VII pour brûler leur soutien-gorge. Du soutien-gorge au striptease, il n'y avait qu'un pas, et ce sont finalement des milliers d'hommes qui se sont également retrouvés dans ce parc de Lisbonne. En réalité, les militantes féministes n'avaient pas du tout l'intention de brûler leur soutien-gorge. En voulant faire valoir leur position contre une société qui opprimait les femmes, elles avaient tout simplement décidé de brûler tous les symboles de cette oppression. Une robe de mariée avec son bouquet, la parfaite manoplie de la femme d'intérieur avec son tablier, et une vamp, le parfait symbole sexuel de l'époque. Finalement, devant les antiféministes présents et les insultes de plus de 3000 hommes présents ce jour-là, elles n'ont pas réussi à brûler ces symboles. Mais la symbolique est belle, je trouve, et moi j'ai envie de dire qu'elles sont finalement arrivées à réussir leur coup médiatique. La révolution signifie le changement, et ces symboles de l'oppression féminine symboliquement en feu ne sont qu'une allégorie et une façon de montrer comment on peut brûler l'oppression, l'insécurité, la peur et le manque de courage. Et surtout, montrer que l'on peut toujours faire mieux, qu'on soit d'ailleurs des femmes ou des hommes de bonne volonté. Et j'en profite d'ailleurs pour ajouter que les hommes ne sont pas les seuls responsables de la condition de la femme, évidemment. Puisqu'aujourd'hui encore, si des différences entre les sexes persistent, c'est également à cause de l'inactivité et la peur de certaines femmes qui sont elles-mêmes les premières à ne pas croire en leur potentiel. Thank you.
caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Saudades, saudades, saudades. Saudade, 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 se a terra se amigar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudades, 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 minha terra sem enclau. Saudades, saudades, saudades.
Στα μάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, σοδά.
Nous sommes en train d'écouter Cesaria Evora en live et en duo avec la chanteuse grecque Eleftheria Arvanitaki. Elle nous interprète Saudades, une superbe symbiose entre ces deux femmes d'origine totalement différente mais réunies par la musique. Comme quoi, le chaloupé du Cap-Vert se marie hyper bien avec le grec. Mais revenons à la condition de la femme portugaise pendant la dictature. Je vous parlais tout à l'heure d'une des tout premières révolutions mi-féministes et ont eu lieu à Lisbonne, juste après la révolution des œillets, et qui auraient pu voir des femmes brûler les symboles de l'oppression en signe de protestation sur leurs conditions de femmes réduites au mariage et à la maternité. Que dire maintenant en ce qui concerne les droits civiques des femmes au Portugal ? Eh bien, il a fallu attendre l'ère salazariste dans les années 30 pour que les femmes puissent s'exprimer par le vote. Mais attention, le vote était exclusivement autorisé aux femmes ayant fait des études supérieures ou des études secondaires complètes, s'il vous plaît. On ne sait jamais. Et il faudra vraiment attendre la révolution des œillets pour que toutes les femmes portugaises puissent enfin voter. Le tout premier vote féminin ayant eu lieu en 1976. Mais l'un des derniers jalons du féminisme au Portugal restera tout de même l'année 2007, lorsque l'avortement a été légalisé jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Avant cela, les Portugaises risquaient 3 ans de prison, sauf en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère ou du fœtus. Malheureusement, comme toujours les choses, les meilleures ne sont jamais définitivement acquises, puisque 10 ans après, c'est-à-dire en 2017, le Parlement portugais a adopté un projet de loi qui restreint considérablement l'accès à l'avortement, puisque le texte voté met fin à la gratuité de l'acte médical et impose aux femmes de recevoir des conseils psychologiques et sociaux sur la planification de la famille avant de mettre fin à une grossesse. Autant dire que l'avortement reste aujourd'hui quasiment impossible. Et on le voit bien, l'avortement reste un droit fragile dans un pays en majorité catholique et où l'Église exerce un poids considérable. Et il ne faut pas oublier la grave crise économique que le Portugal a traversée à partir de 2009. Parce que certes, les Portugais ont subi des mesures d'austérité draconiennes, mais au premier rang, les plus touchés par la crise, il y a eu quand même les enfants, les personnes âgées et les femmes. Bon, le Portugal récolte malgré tout un bon point, puisque c'est là-bas que la disparité salariale globale entre hommes et femmes est inférieure à celle des autres pays européens. Il y est de 26%, alors qu'en moyenne, elle est de presque 40% dans les autres pays. Malgré tout, je trouve que la disparité est quand même énorme. Maintenant, en ce qui concerne la supervision internationale des femmes portugaises, peut-on affirmer qu'il y ait aujourd'hui dans le pays des femmes jouissant d'une renommée internationale ou populaire, telles que João Barroso, par exemple, qui était président de la Commission européenne, ou de António Guterres, qui est l'actuel secrétaire général de l'ONU, par exemple? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. À part quelques artistes de fado, connus d'un public plus ou moins large, tels que Marisa, Ana Moura, Katia Guerreiro, Mísia, voilà. Maintenant, au niveau social, quelle place occupe la femme portugaise? Et le Portugal reste-t-il un pays de machos? Ben un peu quand même, puisque surtout lorsque l'on voit certains chiffres qui donnent à réfléchir. Car il semblerait que les hommes portugais passeraient 96 minutes par jour à cuisiner, nettoyer et s'occuper des enfants, la moyenne de l'OCDE étant de 141 minutes. Les femmes portugaises occuperaient donc, quant à elles, 328 minutes en moyenne par jour dans les travaux domestiques, soit presque 4 fois plus que les hommes. On peut donc dire que l'inégalité entre hommes et femmes est encore bien ancrée au Portugal, même si la révolution des œillets a contribué à l'amélioration de la situation de la femme portugaise. Et pourtant, la loi 13 de la Constitution portugaise prône l'égalité des deux sexes. Et oui, comme quoi, entre les textes et la réalité, il y a un sacré fossé.
Esta noite para mim, volta esta noite para mim. Canto teu fado no silêncio. Se quiseres, mando um recado à lua que se costuma deitar ao nosso lado. Para não vir hoje, se tu vieres, anda deitar-te. Fiz a cama de lavado, cheia. cena. O meu lençol alinhado, pus almofadas com fitas de cor, colcha de chita com barra de flor. E a cabeceira tem um santo alumiado.
On vient d'écouter Fado per esta noite, chanté par Gisele João et accompagné par les accords électroniques du DJ portugais Shinobi. Mais revenons à notre femme portugaise. Pour vous dire que globalement, au Portugal, la population féminine existe en plus grand nombre dans l'univers académique que les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont relativement plus nombreuses à suivre des études supérieures que les hommes. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'elles seraient plus nombreuses également à occuper des postes de chefs d'entreprise? Eh bien non. Parce que selon une récente étude, seulement 5% des entreprises seraient gérées par des femmes. Se tournerait-elle alors vers des carrières politiques? Eh bien non, toujours pas. Parce que dans le gouvernement actuel de António Costa, par exemple, sur 20 ministres, seules 8 sont des femmes. 8 femmes, ça peut paraître peu, mais c'est un record depuis la révolution des œillets, puisque jamais il n'y a eu autant de femmes dans un gouvernement portugais. Mais attention, une femme a quand même été présidente de l'Assemblée nationale portugaise. Il s'agit de Maria Assunção Andrade Esteves, poste qu'elle a occupé entre 2011 et 2015. Mais celle qui a occupé le poste le plus important au niveau de la gouvernance de l'État portugais a été sans aucun doute Maria de Lourdes Pita Silgo, nommée Premier ministre de 79 à 80. À l'époque, elle avait été choisie par le président Ramalho Eanes par ses qualités de leadership. Son mandat de Premier ministre n'a duré que 5 mois, un temps relativement court mais qui lui a laissé le temps d'augmenter le salaire minimum, les pensions de vieillesse et d'invalidité. Une autre femme, Leonor Blaise, a également occupé une place de prestige dans l'échiquier politique en tant que vice-présidente de l'Assemblée de la République entre 2002 et 2005. Elle a même laissé son empreinte au ministère de la Santé qu'elle a dirigé de 85 à 90. Une autre femme, Manuela Freire Leite, a été présidente du Parti Socialiste de 2008 à 2010. Par la suite, elle a également occupé le poste de ministre de l'Éducation et de ministre des Finances. Un parcours tout à fait atypique a été celui de Zita Seabra, qui a parcouru quasiment tout l'échiquier politique portugais. Elle a adhéré au Parti communiste portugais en 1566. Elle a été députée, elle a œuvré pour la législation sur l'avortement et fondé le Parti écologiste portugais. D'autres femmes portugaises ont bien évidemment occupé des postes clés, tels que Joana Marques Vidal, nommée procureure générale de la République, Paula Teixeira Cruz, ministre de la Justice, ou Helena Fraga, qui a été bâtonnier à l'ordre des avocats. Le gouvernement portugais actuel compte 4 femmes ministres et 17 femmes secrétaires d'État, ce qui n'est pas mal en soi. À titre de comparaison, en France, on a 17 femmes ministres et 4 secrétaires d'État. Mais vous comprendrez comme moi qu'il n'y a aucune comparaison possible avec le Portugal, puisqu'il y a également plus de portefeuilles ministériels en France. En ce qui concerne maintenant des sphères autres que des postes à responsabilité, on peut noter une certaine progression en termes de participation des femmes portugaises dans des organisations de pensée et de propositions telles que la franc-maçonnerie. Au niveau mondial, cette organisation est majoritairement masculine, toutefois la féminisation de celle-ci a pris au Portugal un retard encore plus considérable qu'ailleurs. Et il ne faut pas oublier toutes ces belles ambassadrices qui font parler du Portugal bien au-delà des frontières, comme la pianiste Maria João Pires, les artistes plastiques Paula Rego et Joana Vasconcelos et la fadiste Marisa, que l'on ne doit pas oublier, et dont je vous parlerai tout à l'heure. On vient d'écouter la belle Amy Curl avec l'un des titres phares du grand Zeca Afonso, Maio Maduro Maio. Depuis le début de cette chronique, je vous parle de la condition féminine au Portugal. Et on a bien compris que les 48 ans de dictature ont laissé beaucoup de stigmates dans la façon dont était traitée la femme portugaise dans son pays. Alors j'ai poussé ma curiosité un peu plus loin et j'ai cherché à savoir quel était l'idéal féminin tant prôné par l'État nouveau de Salazar. Eh bien, figurez-vous qu'avant la révolution des œillets, la femme était traitée comme un être inférieur à l'homme. Ses droits étaient tellement limités qu'il lui était impossible de quitter le pays sans l'autorisation de son mari. En gros, elle était clairement le sexe faible. Elle devait se laisser dominer par les hommes et se laisser violer si besoin était. On élevait les petites filles toujours en arrière-plan des garçons. Cet héritage, transmis bien évidemment de mère en fille, était un héritage de discipline et de castration pour la femme, car l'homme régnait en roi. Et oui, les 48 ans de dictature ont dicté un sort bien triste pour les femmes, une vie faite de discrimination et de violence. En résumé, pendant quasiment un siècle, la femme n'a existé que pour être une mère parfaite, une femme dévouée et une fée du logis. La petite fille était éduquée pour être soumise au pouvoir patriarcal du père, du frère et plus tard du mari. Son seul avenir était d'avoir la chance de faire un bon mariage qui lui garantirait de pouvoir manger grâce à sa famille. Et Salazar, un grand dictateur qu'il était, n'a jamais laissé la moindre possibilité à cet ordre social d'être remis en cause. La moindre tentative de révolte féminine était systématiquement réduite au silence. Mais à force et chemin faisant, les mentalités ont commencé à évoluer. L'industrialisation a commencé à emmener la femme loin de chez elle. Et même si un contrat de travail avait à l'époque moins de valeur qu'un contrat de mariage, c'était déjà pour elle une forme d'émancipation. Les femmes portugaises ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient prétendre à aucune carrière de l'État, mais ne pouvaient être ni juges, ni diplomates, ni militaires, ni policiers. Pour travailler dans le commerce, quitter le pays, ouvrir un compte en banque ou prendre des contraceptifs, elle était obligée de demander la permission à son mari. C'est un comble. Et pour celles qui avaient la chance de pouvoir travailler, il faut quand même savoir que leur salaire équivalait à un demi-salaire masculin. Et le peu qu'elles gagnaient était immédiatement reversé à leur père ou à leur mari. Cette loi liberticide pour les femmes a évidemment changé un an après la révolution des œillets en 1975 et le droit des femmes a enfin été inscrit dans la constitution de la République portugaise. Donc la condition de la femme n'a pas toujours été facile, mais de nombreuses femmes portugaises ont toutefois lutté et de par leur comportement contribué à atteindre une certaine liberté dont jouit l'actuelle génération. Les unes étaient écrivaines, sportives, artistes, activistes, résistantes. Elles s'appelaient Beatriz Ângelo, Catarina Eufémia, Paula Rego et Rosa Mota.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci à vous tous qui nous êtes désormais fidèles. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. En attendant, continuez à faire attention. On est en pleine pandémie quand même encore. Et faites attention à vous et aux autres. Je vous embrasse.
Et oui, rencontre lusophone se termine, mais c'est pour mieux revenir la semaine prochaine. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'oubliez pas qu'elle est rediffusée demain soir à 20h30 sur cette même fréquence. Et pour nos nouveaux auditeurs de Radio Avalon, je précise que pour écouter ou réécouter cette émission, il y a bien sûr le podcast sur la page de Radio Résonance ou sur notre page radio Rencontre Lusophone au pluriel. Bon week-end à tous et n'oubliez pas de sortir couvert et masqué. À samedi prochain. À tes mâches.